je suis encore en chemin. Je pense qu'on est toute sa vie en chemin. Mais en tout cas, je me suis trouvée moi. Je me suis réalignée. La prof, elle dit que tu sautes dans tous les coins, que tu tiens pas en place, que t'es créatif. Bah, tu sais quoi? C'est peut-être quelque chose qui est une force. Et je crois beaucoup à la synchronicité, à forcer le destin. Parce que j'aurais pu décider de prendre l'avion d'après ou de me dire ça sera dans 2 mois. Mais en fait, je sais pas, il y avait là encore une intuition, un instinct. C'est un truc presque animal. Et c'est par l'expérience qu'on soigne ce syndrome de l'imposteur. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il faut pas être paralysé. Le problème de ce syndrome, c'est que ça peut anesthésier, ça peut paralyser, ça peut te mettre dans l'inertie. Il faut être dans l'action, justement, pour dépasser ce plafond de verre.
Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis François Allais, fondateur du podcast, et depuis 2017, je pars à la rencontre d'entrepreneurs remarquables. Chaque entrepreneur possède une histoire unique, a dû prendre des décisions fortes pour réussir et a franchi un cap dans son aventure grâce à des rencontres. Dans ce podcast, j'aime mettre en avant toute la richesse et la diversité de l'entrepreneuriat en France à travers des conversations intimes, authentiques et sans bullshit. Chaque dimanche à 18h, retrouvez un nouvel épisode exclusif. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir, c'est plutôt elle qui me reçoit d'ailleurs, Marion Dariotor. Salut Marion, comment tu vas?
Bonjour, ça va très bien, merci François.
Je suis très content de te recevoir dans ce podcast. Pour cet épisode, on va discuter évidemment de ton parcours de vie, ton parcours entrepreneurial, de The Arcane, du livre aussi que tu as sorti en début d'année dernière, qui s'appelle Le Temps des Leaders Pop, qui est un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui parle du modèle de leadership, d'un modèle de leadership moderne et présent et futur. On aura l'occasion d'en discuter. Ma première question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi.
Merci François. En tout cas, je voulais juste te remercier au nom de tous les entrepreneurs, avant tout aussi pour consacrer du temps et de l'écoute à nous, les entrepreneurs. Merci pour ça. Dans quel milieu j'ai grandi? Un milieu aimant, une famille aimante. Je pense que c'est important pour la confiance en soi. J'ai grandi à Dijon. Petite ville de province, et en fait c'est marrant parce qu'en préparant notre rencontre, je me suis demandé ce que Dijon m'avait apporté dans le fait de devenir aussi entrepreneur. Et en fait c'est marrant parce que je me suis rendu compte que j'ai grandi dans un univers où je me sentais rarement à ma place, et je pense que la quête de ma vie a été de trouver ma place et de chercher ma bonne place. Pourquoi? Parce qu'à Dijon, tu vois, c'est une petite ville de province assez bourgeoise, assez conservatrice, et donc je ressentais un peu le poids de cette tradition, d'une petite ville de province, beaucoup dans le jugement, beaucoup dans les codes, et du coup moi je me sentais rarement dans les bons codes. J'avais toujours l'impression de faire des faux pas, des pas de côté, d'être jamais là où on m'attend, et finalement j'ai passé toute mon enfance à essayer de rentrer dans les cases dijonnaises, que ça soit l'école, que ça soit la vie sociale, que ça soit le sport aussi, et puis voilà. Donc en fait j'ai la petite Marie. Marion, c'est une Marion qui était dans cette bourgeoisie provinciale, à essayer de rentrer dans les cases tout en sentant que je n'étais pas faite pour ces cases-là. Mais quand on est jeune, quand on a entre, surtout à l'adolescence, la préadolescence, et quand on est une jeune femme qui grandit, il n'y a pas d'autre choix que d'épouser la case qu'on te tend, parce que c'est très difficile d'être en rébellion contre les cases. Mais au fond de moi, j'étais très rebelle. Mes parents me disaient toujours que j'étais une enfant rebelle. Ma phrase préférée, c'était « moi fais comme moi veux ». Et donc, ça m'a amenée à partir en robe d'été, en plein hiver, à l'école, à faire des pas de côté, parce que je sentais que j'avais envie de titiller la ligne, de titiller la norme, mais tout ça a été fait de façon très maladroite, oui, très brutale, parce que je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas que... Enfin, voilà, cette rébellion, elle venait du fait que je me sentais pas à ma place, mais que j'avais pas d'autre choix que de prendre ma place dans la case qui m'était donnée. Bien sûr.
Sans conceptualiser évidemment la case et la norme, entre guillemets.
Ouais, parce
mais en
qu'en
disant
fait,
que finalement, tu n'avais pas ces codes-là.
Quoi. Non, en fait, c'est très dur de conscientiser les choses, puisque en fait, l'éducation, ne serait-ce qu'à l'école, que ça soit une éducation parentale, moi j'ai des parents très, très aimants, mais néanmoins, on est soi-même. Notre enfant intérieur, il nous amène à être quelqu'un. Et du coup, oui, c'est très dur de conscientiser. C'est très dur de dire, quand on est jeune, bah là, en fait, je ressens que c'est la place qu'il faut que je prenne, mais j'ai pas envie de la prendre. Enfin, c'est très dur d'être en rébellion par rapport à ça.
Exactement. Est-ce que tu te souviens de tes premières passions ?
Mes premières passions, oui, il y a une passion pour le tennis. J'étais entraînée à la Ligue de Bourgogne très jeune. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tennis et j'ai adoré le tennis. J'ai adoré le tennis parce que la frappe est intéressante, la balle est intéressante. C'est moi qui suis assez active, ça me fatiguait comme il fallait. Et puis les tournois, je me souviens, les week-ends, il y avait des tournois, les compètes, et donc le goût de l'effort, le goût du dépassement de soi, le goût de la compétition, le goût de la gagne. Ça, j'ai beaucoup aimé faire du tennis. Voilà. Ensuite, il y a eu des passions plus liées à la télé, à la culture télé, puisque on regardait à l'époque la télé en famille, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et donc, il y avait quelques rituels dans la famille d'Arieutor. Le journal de 20h était un rituel. Donc, je pense que ça m'a donné le goût de l'actualité, de la news. Il y avait un rituel le dimanche soir sur M6, qui était l'émission de Christian Blachas, Culture Pub. Ça, c'est pour les plus vieux. Mais avec cette émission, j'ai pris goût à la créativité, à la culture de l'idée, à la culture de la disruption, comme dirait Jean-Marie Dru, et à la culture de l'image, puisqu'à l'époque, on décryptait dans Culture Pub des émissions, enfin des campagnes de publicité. C'était le début, c'était les grandes années de la pub. Et puis, il y avait une émission qui m'a étonnée, qui était Ambition, de Bernard Tapie, qui était une émission qui n'était pas, très d'Arieutor, parce que c'était le monde du business. Moi, j'ai un papa magistrat qui représente le droit, la loi. J'ai une maman professeure d'économie qui avait une vraie passion pour ses élèves et pour l'économie. Mais on n'était pas une famille très tournée vers l'entrepreneuriat, vers le business. Et donc, moi, je regardais Bernard Tapie, Ambition, très années 90, avec cet homme très énergique. En fait, c'était assez marrant parce que ça venait me dire, alors que j'étais dans mes études à Dijon, dans cette bourgeoisie de province, comme je t'expliquais, ça m'envoyait un message de « tiens, il y a peut-être un truc possible parce que cet homme, qu'est-ce qu'il nous envoyait comme message ? C'est que tout est possible. T'as pas les diplômes, t'as pas les codes, tu viens pas de l'establishment, mais tu sais quoi en fait ?» C'est possible. Et lui, il nous apprenait, il nous envoyait un message de libérer quelque chose. Voilà, donc c'est un mélange de tout ça. Moi, j'étais pas une enfant qui avait des passions au sens où, comme parfois certains enfants peuvent dessiner pendant des heures, se passionner pour les mangas ou pour je ne sais quoi. Moi, j'avais pas ça. J'avais plutôt... j'allais chercher des intuitions, j'allais chercher à me confronter à des univers. C'était plutôt ça, mon truc.
Une curiosité profonde. Finalement.
Ouais, c'était plutôt ça. Et qui venait me confronter.
Exactement.
En fait.
Et pour le coup, pour revenir sur l'émission de Bernard Tapie, une émission et un personnage qui sortaient des cases aussi, de cette case traditionnelle, on va dire.
Totalement.
Versus des entrepreneurs traditionnels.
Oui, parce que à l'époque, il y avait des grandes figures du capitalisme industriel français. Et lui, il arrivait et il échappait à tous les codes, à tous les codes. D'ailleurs, je pense qu'il en a peut-être souffert au départ. Mais il a envoyé le message que c'était possible. On aime ou on n'aime pas Tapie, notamment la façon dont il a ça s'est fini pour lui. Mais néanmoins, il partageait une énergie entrepreneuriale que moi, j'ai compris comme après une énergie entrepreneuriale.
Bien sûr, parce que c'est des choses, encore une fois, qu'on ne conceptualise pas. Exactement. À cet âge-là.
Voilà.
Comment est-ce que tu vis tes études et qu'est-ce que tu fais justement comme études ?
Mes études, c'est un acte de rébellion. Aussi, je pense que j'aurais pu avoir des études plus classiques, Sciences Po, prépa, voilà. Et en fait, j'ai choisi de faire une école de commerce post-bac et d'aller à Paris. Donc, mon plan, il était tracé. J'avais trouvé une école qui s'appelle European Business School, EBS, parce qu'en fait, j'avais vu des témoignages de gens qui étaient sortis de cette école et qui étaient des entrepreneurs. Et donc, je me dis, non, c'est ça que je veux faire. Alors que j'aurais eu le niveau scolaire pour, par exemple, faire une prépa et peut-être faire une grande école derrière. Et ben pour moi, l'EBS était une grande école parce qu'elle formait des entrepreneurs. Il y a des gens incroyables qui en sont sortis. Il y a Grandjean, Arthur Sadoun, enfin voilà, des gens que j'admire. Et je me suis dit... c'est ça que je veux faire. C'est concret, c'est opérationnel. On va passer une année à l'étranger. Et puis, ça me permet de me barrer de Dijon, surtout, et d'aller à Paris. Et voilà. Et donc, j'ai fait ça. J'ai beaucoup aimé parce que j'y ai rencontré des gens qui sont encore des amis, que j'admire, et qui avaient un état d'esprit... C'est marrant, un peu atypique, justement, un peu différent, et qui ont fait des carrières très intéressantes parce que justement pas complètement dans la norme. Ouais. Et c'est finalement ça, sans le savoir, parce qu'encore une fois là c'est facile, j'ai 50 balais, je post-rationalise tout. Mais en fait je suis allée, l'EBS c'était une façon d'être dans la norme sans l'être complètement. Et puis je me suis dit que l'EBS m'avait appris le business, mais que je voulais être une entrepreneure dans la communication, puisque mes deux modèles, c'était Bernard Tapie, le business, et Christian Blachas. Donc, je me suis dit, il faut que j'allie les deux. Et donc, j'ai rejoint le CELSA pour faire une dernière année, une cinquième année au CELSA, puisque le CELSA, c'est un peu la voie royale en matière de communication. Et donc, finalement, c'était de faire des études qui représentaient comment je peux faire du business dans le monde de la communication.
Donc finalement, dès le départ, tu veux devenir entrepreneur. Du moins, tu visualises le fait que l'entrepreneuriat fera partie de ta vie.
En fait, j'arrivais pas à le visualiser parce que je ne venais pas de ce milieu. J'avais pas les codes, je savais pas le décrypter. J'ai jamais croisé un entrepreneur avant mes peut-être 20 ans. Donc en fait, c'est très bizarre de comprendre... Parce que je l'avais en moi, je sentais que c'était en moi, mais je ne mettais pas les mots. Je disais, faut faire du business, ou tu vois, ou faut faire des business plans, où il y a un truc qui s'appelle un PNL, mais en fait, je le savais pas vraiment. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose en moi, voilà. Donc, c'était là, mais la question, c'est, et ça m'a beaucoup après interpellée, c'est comment ça éclot? Comment ça peut tout d'un coup jaillir et sortir d'une carapace qu'on se met en se disant l'entrepreneuriat, je ne sais pas ce que c'est et je ne sais pas si c'est pour moi. Donc du coup, après mes études, j'ai fait consultante en communication parce qu'en fait, le consulting dans la com, ça te permet de... travailler plein de sujets différents, de rencontrer des gens différents, d'être dans des secteurs d'activité différents. Et donc, il y a une agilité intellectuelle qui est canon dans le conseil, mais vraiment canon. Et moi, comme je déteste m'ennuyer, bah du coup, je suis toujours stimulée par les sujets et par les rencontres. Donc, j'ai commencé dans des agences de communication, où j'ai exercé le métier de consultante. J'ai gravi quelques échelons. J'ai eu la chance d'être nommée DG à 29 ans. On m'a fait confiance pour gérer un PNL, une équipe, un business plan, développer, faire du biz dev. Donc, d'allier mon métier de consultante au business de la com, si je puis dire. Et donc, ça a commencé assez tôt, finalement. Et donc, j'ai gravi les échelons dans les agences de communication. Et puis, un jour, l'entrepreneuriat m'a rattrapé.
Un jour ou l'autre. Comment est-ce que tu le vis à 29 ans d'être nommée directrice générale de TBWA Corporate?
Comme un accident. comme une imposture, c'est-à-dire que et en même temps comme une chance incroyable, mais avec un truc de pourquoi moi ? Est-ce que je vais être capable ? Je suis pas tout à fait prête. Est-ce que cette personne qui vraiment voit ça en moi, elle a raison ? Comment je vais faire ? Donc beaucoup d'interrogations, beaucoup d'interrogations, avec un complexe d'imposteur incroyable et en même temps une énergie qui me fait dire c'est possible et je vais kiffer, je vais m'amuser. Voilà, donc et c'est toujours ce sentiment ambivalent de pourquoi moi je vais pas y arriver, un problème de confiance en soi quand même qui traîne un peu, et de dire comme mon moteur c'est de m'amuser, et du coup bah la feuille elle est blanche et on va s'amuser.
Bien sûr. Et de toute façon, ce syndrome de l'imposteur qui... sur lequel on communique beaucoup ces dernières années, ouais. Qui n'était pas du tout le cas finalement il y a 10, 15, 20 ans, je suis convaincu qu'on corrige en faisant, tout simplement. On le soigne au fil des années, ouais. En faisant, en gagnant en légitimité, en gagnant en expérience, et c'est quelque chose qui, je pense, est tout à fait normal, et qui enfin pour moi c'est logique d'avoir
pas une fatalité.
Exactement. D'accord. Exactement. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses.
Oui, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que en fait déjà il faut oser en parler, parce que tu te rends compte que quand tu commences à en parler en disant moi je ressens ça, bah il y a des gens qui vont dire la même chose, donc ça fait du bien d'en parler. C'est les vertus de la parole, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est-à-dire il y a une courbe d'apprentissage, et c'est par l'expérience qu'on soigne ce syndrome de l'imposteur. Mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il faut pas être paralysé. C'est-à-dire le problème de ce syndrome, c'est que ça peut anesthésier, ça peut paralyser, ça peut te mettre dans l'inertie. Et le message peut-être à passer, c'est de se dire il faut être dans l'action. Justement pour dépasser ce plafond de verre, ce complexe, voilà. Et parfois malheureusement ça nous anesthésie.
Ouais, je suis complètement d'accord sur le fait que ça peut être un blocage. Mm. Il faut s'enlever ces barrières mentales, même si évidemment c'est facile à dire et
ouais.
Moins facile à exécuter. Qu'est-ce qui fait que tu switches et que tu te lances dans l'entrepreneuriat ? On est en 2008. Tu lances l'agence Elan ou Elan. Elan, tout simplement.
Comme un nouvel Elan.
Exactement. Qu'est-ce qui fait que tu switches à ce moment-là après un certain nombre d'années d'expérience dans la communication ? Est-ce que tu te dis, bon, là, je suis prête pour le faire moi-même, entre guillemets ?
En fait, c'est l'envie d'entreprendre, elle est venue d'un épisode familial un peu triste, on va dire, mais qui s'est bien fini, qui m'a tout simplement fait comprendre qu'on n'avait qu'une vie et que nos rêves, en fait, fallait pas attendre pour les vivre. Et finalement, en vivant cet accident de parcours, je me suis réveillée un jour et je me suis dit, mais en fait, j'ai qu'une vie, ça y est, faut que j'y aille. Et en fait, ça a révélé l'envie d'entreprendre qui était là, comme on s'en parle depuis quelques minutes. C'était là, mais c'était enfoui, c'était caché, c'était tabou, parce que je m'étais jamais autorisée à me dire je vais libérer ça. Et puis je me suis réveillée un matin en disant c'est plus possible, je vais le faire. Et je l'ai fait. Alors dans la précipitation, je me souviens, j'étais directrice générale d'une agence Edelman à l'époque, et je me suis réveillée un matin et j'ai donné ma dème. Mais du jour au lendemain, en plus sans chômage, sans filet,
sur un coup de tête.
Et j'ai visualisé un truc très fort, parce que parfois pour faire les choses, il faut visualiser quelque chose. Et je me suis vue rendre mes clés de ma voiture de fonction. Parce que pour moi, c'était le statut, enfin c'était le symbole du statut social de j'ai réussi parce que j'ai une belle bagnole de fonction qui est une BMW série 1, et en fait je vais la rendre et je vais rentrer à pied. Et donc je me souviens toujours, j'ai rendu les clés, en fait parce que il fallait que je trouve l'énergie de filer les clés de la bagnole et de partir et de me lancer, alors que j'avais pas de clients, le projet il était à peine écrit et j'avais pas de thunes de côté. Donc c'était n'importe quoi. Sur le papier, souvent on me dit pour être entrepreneur, faut avoir son business plan, faut être prêt. En fait, faut pas être forcément prêt. En fait, faut être prêt dans l'énergie d'entreprendre. Mais sur le papier, alors faut avoir un peu une idée de ce que tu vas en faire. Mais en fait, c'est un truc qui est dans le ventre, qui est, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est un rapport au risque. c'est un sans filet. Moi, j'ai besoin de ne pas avoir mon chômage pour entreprendre. J'ai besoin d'avoir un rapport au risque. Et donc, voilà. Et donc, ça s'est fait comme ça, avec une urgence à vivre. Une urgence à vivre, une urgence à me dire, si ma vie s'arrête demain, ça sera quoi le truc que j'aurai accompli? Et en fait, c'était entreprendre. Et c'est comme ça qu'est né Élan, le bébé Élan, sur une forme d'urgence entrepreneuriale, en fait.
De manière très instinctive, finalement.
Hyper instinctive, hyper intuitive sur le moment, mais ultra rationnelle et cadrée sur le what, sur qu'est-ce que j'allais faire, sur qu'est-ce que j'allais proposer à des clients. Ça, c'était rationnel puisque c'était le fruit d'expérience, d'une longue expérience. Parce que je pense que l'instinct et l'intuition, l'intuition peut nous faire faire des erreurs de temps en temps, mais dans la prise de décision, il y a un équilibre à trouver entre l'expérience, le rationnel et l'intuition. Et c'est parce que j'avais quelques années d'expérience, je crois que j'avais 35 ans quand j'ai créé ma boîte, c'est parce que j'avais quelques années d'expérience que je me suis raccrochée à ça pour libérer cette intuition. Et l'intuition, elle est venue de... Enfin, il y a eu, l'énergie entrepreneuriale, de « putain, faut y aller ». Et tout d'un coup, ça te donne une puissance, une joie, j'ai pas eu de stress, comme une libération. Le moment du cabis qui arrive, le premier cabis, ça paraît dingue, c'est un papier. Mais le cabis, c'était ouf pour moi. Donc, c'est à la fois cette énergie vitale où tout d'un coup, on est libre. Moi, mon moteur, c'est la liberté. Et en même temps, une idée très claire de ce que je voulais proposer dans la communication parce qu'on était dans un moment un peu charnière et je m'étais dit, je vais le jouer.
Ouais. Oui, ton projet était très...
Il était mûr.
Pour la suite. Comment le vit ton entourage?
Il le vit. pas surpris parce que ils savent que il y a une détermination, une rébellion. Donc, à la fois des gens qui me disent, ceux qui sont dans les codes sociaux, ils ont dit, mais t'as un beau job, t'es quand même à DG d'une belle boîte à 35 ans. Ah bon, t'as pas de chômage, mais tu viens d'avoir un épisode familial un peu compliqué. Ça serait bien que tu te poses un peu. Ton premier enfant est tout jeune, il n'a que 2 ans, voilà. Et puis t'as ceux qui disent ah enfin, ça y est, t'y vas, c'est bien, bah vas-y, saute, voilà. Donc en fait, c'est le regard des autres, c'est aussi au regard de ce qu'ils sont eux et de voilà. Mais ceux qui me connaissaient vraiment. Ils ont applaudi dès demain. Voilà.
Et du coup, ça me permet de rebondir sur le fait que tu étais jeune maman aussi, depuis 2 ans. Mmh. Comment est-ce que tu vis aussi, du coup, un peu cette tornade de entrepreneuriat, jeune maman, enfin, un peu tout qui se bouscule?
En fait, c'est marrant parce que je me suis jamais posé ces questions-là. C'est-à-dire que quand je croise des jeunes femmes qui me disent. Si je dois créer ma boîte maintenant, je vais faire des enfants à un moment donné. Moi, j'ai jamais eu. D'ailleurs, parfois, j'ai complexé. Je me suis dit, je dois être une mauvaise maman. Mais j'ai jamais eu ces questions dans la tête. C'est-à-dire, j'ai jamais eu de sentiment de culpabilité parce qu'il y a des moments où je travaillais trop. J'ai toujours dit à mes enfants que pour m'épanouir, qu'il fallait que je sois à fond dans mon travail. Bien sûr, il y a des moments où je me disais, est-ce que je suis assez présente? Est-ce que je suis assez là et tout? Mais en fait, c'est possible de concilier. Aujourd'hui, mes enfants, ils ont 19 et 12 ans. Je pense que c'est pas les plus malheureux du monde. Ils sont fiers de leur maman. Il y en a un, il a le goût d'entreprendre. Ça se transmet. Donc voilà. Donc j'ai pas envie d'en faire un sujet. La société en fait un sujet. Les jeunes femmes en font un sujet. Faut pas que ça soit un sujet. Voilà. Et quand on veut, on peut. Et quand on donne du temps de qualité à ses enfants, de l'amour, quand on est heureux professionnellement, en fait, ça nous permet de leur transmettre quelque chose.
Bien sûr.
Ce qui compte, c'est... Enfin, moi, j'ai toujours dit, on fait pas des enfants pour les garder à côté de nous. On fait des enfants pour leur libérer les ailes et d'en faire des petites personnes trop sympas, trop épanouies, trop fortes, trop puissantes, avec leur singularité. Voilà. Mais du coup, c'est étonnant parce que c'est avec le recul que je me dis que c'était un sujet dont j'en ai pas fait un sujet.
Ouais, exactement. Pour revenir à Elan, c'est une aventure qui va durer 6 ans, de 2008 à 2014, avant d'être rachetée. Alors avant de parler du rachat et de la suite, j'aimerais justement que tu me parles et que tu me résumes un peu cette aventure qui a duré 6 ans. Alors j'imagine 6 ans ressenti un peu plus d'années.
Fois 2.
Ouais, fois 2, exactement. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que... c'était comment de travailler avec Elan, avec vos clients, etc. Est-ce que tu veux me parler un peu de tout ça?
Oui, en fait, et ce qui est important, c'est de parler du projet. Parce qu'en fait, je te disais que dans ma tête, c'était prêt, le projet était prêt. Le projet, il était le suivant. Il était de dire que en 2008, donc l'idée, elle arrive en 2007, au moment de la campagne présidentielle. Au moment de cette campagne, il y a quelque chose qui me frappe, c'est l'arrivée des premiers blogueurs politiques. Et puis en 2007, c'est l'arrivée du premier smartphone, iPhone. Avant, on avait des vieux Nokia. Et du coup, il y avait un truc qui montait, qu'on n'appelait pas encore réseaux sociaux, ou digital, ou influenceur. Et donc, j'avais ce truc, cette intuition de me dire, il est en train de se passer un truc. Un peu comme l'IA aujourd'hui, où il y a plein de gens qui se lancent en disant, je vais aller chercher ma chance entrepreneuriale avec l'IA. Et ben en 2008, c'est la préhistoire, mais c'était un peu la même chose avec ce qu'on a appelé après les réseaux sociaux. Et moi, mon métier, c'était un métier d'attaché de presse. On travaillait à la presse. Et je me suis dit... Demain, la presse, ça suffira pas. Il va y avoir d'autres canaux d'influence. L'autre point qui me tenait à cœur, c'est que le mot, j'avais envie de dire que notre métier, de l'appeler influence, conseil en influence. À l'époque, ça s'appelait relations presse. Et le mot influence en 2008, c'est un gros mot. C'est un mot qui sort dans un bouquin qui s'appelle Les gourous de la com. Et notre métier était décrit comme une forme de propagande, de manipulation et de trafic d'influence. Et moi, je me suis dit, je vais prendre le mot et je vais lui donner des jolies lettres de noblesse parce que c'est un joli mot et que l'influence peut être vertueuse puisqu'elle permet de diffuser certes des idées négatives, mais aussi des idées positives. Et donc, mon idée, ça a été de me dire, les RP sont mortes, vive l'influence. Alors, ça n'a pas plu à tous mes confrères quand j'ai dit ça, parce qu'ils se sont dit, mais en fait, pour qui tu te prends? Je dis, bah oui, à un moment donné, je markete ce que je fais. Désolée, je crée ma boîte. Vous êtes là depuis 10 ans. Moi, je la crée. Faut que je paye des salaires. Donc, bah ouais, je fais un petit pied de nez. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas mon métier ou que je renisque d'où je viens. C'était juste de dire, il va falloir qu'on modernise nos pratiques. Et il y a un truc qui bouge. Et qui va faire évoluer nos pratiques métiers. Et ce truc-là, c'était les réseaux sociaux. Et donc, en 2008, quand je pose ce projet, je savais pas du tout où ça allait nous emmener. En plus, je crée en janvier 2008, septembre 2008, crise financière. Boum. Et là, voilà. Mais on avait engrangé des premiers clients. L'Oréal nous avait fait confiance. Il m'avait fait confiance alors qu'on avait que 3 mois. Et on s'est retrouvés à... accélérer grâce à la confiance de cette belle maison qui est une histoire qui a continué à me suivre après dans mes différentes aventures entrepreneuriales.
Et qui était l'une de tes premières expériences professionnelles.
Et en plus, après le CELSA, merci de le signaler, j'ai commencé chez Lancôme. Bon, donc en fait, j'ai une histoire avec L'Oréal, avec cette maison. Et donc voilà, donc le projet Elan, c'était de dire, on va, non pas réhabiliter, mais réhabiliter le mot influence. Et on va avoir une approche métier qui permet de ne pas faire que de la presse, mais d'intégrer les réseaux sociaux et les influenceurs dans notre métier. Et c'est comme ça qu'Elan est né, avec une promesse très forte. Et on a été une des premières agences à intégrer un blogueur. À l'époque, c'était Luc Mandré, qui venait de la politique, justement. Et on a... c'est comme ça qu'Elan est né. Et ça nous a emmené sur effectivement 6 ans d'aventure, en démarrant de zéro, en finissant à 50 ou 60 personnes, avec une filiale à Bruxelles et une filiale à Londres, et des rencontres, une aventure humaine, une aventure presque familiale qui a été absolument déterminante.
Et donc extrêmement précurseur, très visionnaire aussi, sur ce que finalement va devenir l'influence, et ce que c'est aujourd'hui d'ailleurs, qui continue d'évoluer au fil des années. Elan s'est racheté en 2014 par un groupe que tu connais bien, Edelman, pour devenir Elan Edelman. Est-ce que tu peux me parler de ce rachat? Comment est-ce que tu l'as vécu? Comment ça s'est passé?
Alors, ça a été une grosse décision parce que, en fait, on m'avait toujours dit, il y avait un de mes mentors qui m'avait dit, tu sais Marion, tu sais toujours quand tu crées, tu sais toujours quand c'est le bon moment pour créer, parce que c'est en toi, mais tu sais jamais quel va être le bon moment pour vendre. Et j'avais ça en tête. Et il m'avait dit, le bon moment pour vendre, ça sera le moment que toi, tu ressens. Parce que tout le monde le rationalise en disant ça va être un multiple de l'EBITDA, il y a des formules mathématiques, il faut gagner de la thune, blablabla. Bla bla. Et en fait, j'ai beaucoup pensé à ce qu'il m'avait dit et en fait, ça a été le bon moment pour moi, moi Marion. D'une part parce que je me sentais seule dans cette aventure entrepreneuriale au sens où j'avais besoin d'apprendre. Je m'asséchais un peu et j'avais besoin d'apprendre. J'avais besoin d'apprendre l'international aussi, puisque 2013-2014, il y a une forte mondialisation, globalisation des entreprises, aidée par les réseaux sociaux. Il y a aussi une globalisation de notre métier, c'est-à-dire autant la presse, elle était locale, les réseaux sociaux et Twitter arrivaient, bah ça devenait mondial. Et donc, on rentrait, mon métier s'est mondialisé. Et je sentais qu'il y avait des clients que je n'arrivais pas complètement à accompagner dans cette mondialisation de mon métier parce que moi-même, je ne m'étais pas mondialisée. Moi, Marion, consultante, j'étais franco-française. Alors, j'avais entrepris en Belgique, entrepris à Londres avec des échecs parce que c'est difficile d'entreprendre quand on ne sait pas dans son pays. Et donc, voilà. Et je me suis dit, c'est le bon moment pour moi, Marion, parce que j'ai besoin d'apprendre. C'est le bon moment pour moi, Marion, parce que j'ai besoin de m'internationaliser. Et c'est le bon moment parce que dans le monde de l'influence, j'ai posé des choses et il faut que j'aille plus loin. Il faut que j'aille plus loin dans l'innovation. Il faut que je mette les techniques de planning stratégique dans mon métier. Il faut que je mette les influenceurs dans mon métier parce que ça, c'était en train de devenir très sophistiqué. Il faut que je mette plus de digital. Et ça, il me faut des moyens. Et comme j'avais travaillé chez Edelman, j'avais une admiration infinie pour Richard Edelman, qui est la deuxième génération, qui est un mec qui va vite, un visionnaire, un intuitif, un entrepreneur. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je retourne le voir pour m'accompagner dans cette étape. Voilà. Donc, quand il a su qu'Elan était à vendre, il m'a dit « viens me voir à New York ». Et je m'étais dit, il y avait une histoire d'avion, j'avais pris un billet pour New York. Et puis, il m'avait dit « viens me voir ». Tel jour, telle heure. Par contre, si tu rates le rendez-vous, ça reporte à 2 mois parce que j'ai plein de voyages. Et je m'étais dit, putain, faut vraiment que je monte dans cet avion. Et en fait, il y a eu du surbooking ce jour-là, sachant que ça m'était jamais arrivé de ma vie d'avoir un problème de surbooking. Et en fait, je savais qu'il fallait pas que je loupe ce rendez-vous. Et l'hôtesse au sol, je lui dis, madame, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible que vous me disiez qu'il y a du surbooking parce que il faut que je monte dans cet avion. Et elle me dit, enfin bon, madame, comme tout le monde, quoi, voilà. Et en fait, je suis tombée sur une femme incroyable. Et il y a une jeune femme à côté de moi qui était personnelle de Air France et qui m'avait dit, écoutez, moi j'ai un strapontin, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, ils ont des quotas, voilà. Et elle m'a dit, écoutez, moi je peux partir demain et donc je vous cède ma place. Oh. Et je suis montée dans cet avion, j'ai pris leur téléphone et tout, et je leur ai dit, si je monte dans cet avion, je vendrai ma boîte. Et ça sera grâce à vous, et si je fais le deal, laissez-moi votre numéro. Je suis montée dans cet avion, j'ai pris un café avec Richard Edelman, ça a duré 45 minutes, et ma décision a été prise. Et quand je suis rentrée à Paris, j'ai offert des gros bouquets de fleurs à ces deux personnes. Mais ça a failli pas se faire, ça aurait pu ne pas se faire. Ouais, je crois beaucoup à la synchronicité, à forcer le destin, parce que j'aurais pu décider de prendre l'avion d'après ou de me dire ça sera dans 2 mois. Mais en fait, je sais pas, il y avait une intuition, un instinct. C'est un truc presque animal, tu vois. Mais je crois beaucoup. Enfin, mon histoire entrepreneuriale, elle est jalonnée d'histoires comme ça.
Voilà. Incroyable.
Voilà, c'est, mais je suis sûre que tous les entrepreneurs que tu interroges, enfin, pour avoir écouté certains, il y a des moments, des pivots très importants
qu'il
faut saisir.
Il y a beaucoup d'histoires de sérendipité aussi.
Totalement, complètement.
Tu vois, le côté aléatoire, mais on pousse ce côté aléatoire pour aller dans notre sens.
Ouais.
Et c'est ça qui est aussi incroyable dans ces aventures, finalement. Mm. Edelman, à l'époque, c'est numéro 3 mondial, accessoirement.
Mm. Ouais, c'est vrai.
Tu y restes jusqu'en 2020.
Mm-hmm.
Et en 2020, on est un peu après la crise du... Enfin, on est en pleine crise du Covid, en finalement. En novembre 2020, tu crées Zircan, qui est un cabinet de conseil en gouvernance et en influence.
Mm-hmm.
Donc finalement, la suite logique de ton aventure.
Mm-hmm.
Est-ce que tu peux me parler justement de Zircan et de comment ça a été créé?
Mm-hmm. Donc effectivement, c'est marrant parce que le confinement m'a réveillé chez moi une envie de réentreprendre. J'ai adoré mes années Elan Edelman. Ça a été une histoire incroyable de croissance. J'ai appris à l'international. Ils ont tenu leurs promesses. On s'est beaucoup apporté mutuellement. Mais j'étais devenue salariée. J'étais à l'étroit, j'arrivais plus à innover comme moi j'en ai besoin. Ça n'a rien contre l'aventure que je vivais, mais c'était répondre à mes besoins essentiels. Et le confinement est venu taper sur ça. Je pense que le confinement, il a eu ça chez beaucoup d'entre nous, elle est où ma vie ? Vers quoi je dois aller? On se parlait tous du monde de demain. Je sais pas si tu te souviens, mais il y avait des tribunes dans tous les sens, des émissions sur le monde de demain. Et donc, moi, ça m'a fait ça. C'est quoi mon monde à moi demain? Et là, ça a rejailli une autre fois de dire, je veux entreprendre. Avec un niveau de risque total, puisque j'ai créé Arcane entre deux confinements, sans aucune visibilité business, en signant 10 CDI, Et avec la peur au ventre quand même, parce que entreprendre c'est déjà difficile, mais entre deux confinements avec ce qu'on venait de prendre, sincèrement parfois j'y repense et je me dis qu'est-ce que j'ai fait,
dans la continuité de 2008,
voilà, dans la continuité de 2008 à l'instinct et au risque, c'est-à-dire que moi j'ai un profil d'entrepreneur où j'ai besoin du risque, j'ai besoin de l'adrénaline, j'ai besoin du vertige. Alors, c'est pas sympa pour l'entourage, mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Voilà,
ils te connaissent.
Ils me connaissent, voilà. Et c'est l'occasion, pour remercier ma famille, mon mari, mes enfants, parce que c'est pas facile pour eux. Et aussi les collaborateurs qui me suivent à chaque fois dans ces aventures, parce que on crée pas une boîte tout seul. Souvent, je leur dis, vous êtes fous. Moi, je suis folle, mais vous êtes encore plus fou que moi de me faire confiance. Et donc, Arcane est né de cette envie de proposer à mes clients une vision de ce monde de demain. Au sens où il y a des dirigeants qui arrivent à la manœuvre, à la tête de leur boîte. Il y a toute une nouvelle génération de dirigeants qui sont aux commandes et qui, parce qu'ils ont peut-être conscientisé des choses lors du Covid, comme nous tous, de la fragilité de notre planète et de notre vie, ils n'ont plus envie de diriger comme avant. Et au moment du Covid, mes clients me disaient ça. Des dirigeants me disaient ça. Bien sûr, il faudra toujours sortir l'EBITDA, faire du profit, mais est née une conscience sociétale beaucoup plus forte qu'avant. Cette conscience du green, cette conscience que l'entreprise, elle a une contribution sociale et sociétale parce que l'État ne peut plus tout, l'école, l'éducation nationale ne peut plus tout, notre système de santé ne peut plus tout. Et j'ai rencontré à ce moment-là des dirigeants qui m'ont dit « je ne peux plus gouverner comme avant ». Et du coup, je me suis dit « tu sais quoi, je ne peux plus conseiller comme avant ». Moi, ça faisait quelques années que j'étais très engagée sur les sujets de bien commun à travers le think tank que je préside, Entreprises et Progrès, où on est un peu des activistes de l'intérêt général. Et du coup, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire un conseil qui est au service du bien commun avec des entreprises et des dirigeants qui ont compris que la performance financière, c'était bien, mais qu'il fallait travailler à la performance extra-financière. C'était le début de l'ESG, c'était la montée en puissance de la RSE, c'était une réflexion sur l'extra-financier Et je me suis dit, moi, je vais faire ça. Je vais, et c'est dans notre raison d'être, c'est et elle est dans nos statuts, c'est effectivement d'accompagner nos clients dans les arcanes du pouvoir pour mieux servir leur performance financière et extra-financière. Et c'est comme ça qu'Arcane est née, de cette vision de la sociétalisation des entreprises, des interpellations sociétales qui se posent aux dirigeants, parce que maintenant, on leur dit « tu penses quoi de l'avortement aux États-Unis ? Tu penses quoi de la guerre en Ukraine ? Tu penses quoi du conflit au Proche-Orient ? Tu penses quoi des droits des femmes afghanes ?» Et ils ont bien conscience qu'ils n'ont pas réponse à tout, qu'ils ne peuvent pas tout régler, mais qu'à minima, ils veulent s'engager. Et l'idée, c'est de les accompagner dans cet engagement. Donc ça a été l'idée de départ, avec l'idée dans notre business model, qui est d'être la relève de notre métier. À chaque fois, il y a cette idée d'innovation dans les business que je crée, de pousser les lignes de mon métier, d'innover, d'être la relève de quelque chose. Et là, l'idée, c'est de dire, il y a une nouvelle génération de dirigeants qui est au pouvoir. Nous, on veut être la relève des cabinets de conseil aux dirigeants. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Arcane, parce qu'on va aider nos clients à se connecter aux arcanes, les arcanes traditionnelles. Il y aura toujours le MEDEF, il y aura toujours le Siècle, il y aura toujours le Figaro. Mais il y a aussi les nouvelles arcanes. Les activistes qui s'invitent dans les assemblées générales de Total ou BNP, des ONG qui travaillent complètement différemment. Extinction Rebellion ne travaille pas avec les mêmes méthodes que WWF. Hugo Clément, il est activiste. Aujourd'hui, il est journaliste, il est chroniqueur sur la matinale d'Inter. Donc en fait, on le prenait peut-être pas au sérieux avant. Je pense que maintenant, ça a changé. Camille Etienne, qui a été capable d'interpeller des dirigeants. Donc il y a toute cette société civile qui est vécue comme un ventre mou parce que les entreprises ne dialoguent pas avec ces individus de la société civile. Et donc, l'idée d'Arcane, c'est de dire on va vous aider, vous connecter avec ces nouvelles arcanes pour que vous puissiez dialoguer avec elles. Voilà. Et c'est ça la promesse d'Arcane. C'est pour ça que j'ai recruté que des jeunes. Je suis définitivement la plus vieille. Parce que je leur ai dit, les gars, vous êtes la relève. C'est vous qui allez construire ce projet. Moi, je vous mets le pied à l'étrier. Mais en fait, quand je dis la relève, à un moment donné, je serai plus crédible. Parce que je serais trop vieille. Et donc, en fait, on a 10 ans devant nous pour construire ce projet. Je vais vous mettre le pied à l'étrier avec cette idée que aussi le capital serait ouvert aux gens, aux jeunes qui créeraient la valeur.
Donc, une promesse très globale et très d'actualité, finalement.
En fait, ouais, il y a 3 ans, quand l'idée d'Arcane naît, sachant qu'elle était déjà en train de monter 3 ans avant, donc tu vois, finalement, il y a une incubation, enfin, je pense qu'il y a vraiment une incubation personnelle et professionnelle. Et en fait, je savais pas si ça serait le bon moment parce que c'était costaud en termes de risque. Et en fait, je suis tellement contente parce que ça s'est accéléré, c'est-à-dire la connexion des entreprises avec la société civile, elle est de plus en plus forte. Le renouvellement des arcanes, il est énorme quand tu vois l'âge de notre Premier ministre, quand tu vois l'émergence de nouveaux journalistes incroyables, quand tu vois les techniques des activistes. En fait, il y a eu une accélération de folie qui fait que Arcane a trouvé sa place finalement assez rapidement.
Alors, créer une première boîte, c'est une chose. En créer une deuxième, ça en est une autre. Surtout après avoir revendu une boîte finalement à succès, entre guillemets, est-ce que tu as eu plus ou moins de pression que sur ta première aventure ?
C'est beaucoup plus facile. Alors moi, j'ai jamais ressenti de pression à créer. Au contraire, c'est un kiff incroyable. C'est vraiment donc je ressens pas de pression.
Plutôt dans le sens où les gens t'attendent.
Ah oui. Alors ça, ils m'attendent. Ça, c'est sûr. Oui, parce que certains disaient elle a fait une première belle success story, elle va quand même une fois, mais pas deux, quoi. Enfin, j'entendais beaucoup ça. Moi, ça me stimule plus qu'autre chose. Parce que l'idée, c'est plutôt de donner tort à ceux qui jouent les Cassandres. En revanche, réentreprendre, c'est génial. C'est-à-dire que j'ai eu un peu le deuil d'élan. Parce que vendre, c'est difficile. En fait, finalement, vendre, c'est un peu un deuil. C'est un bébé que tu donnes à quelqu'un d'autre, comme s'il y avait une procédure d'adoption. Donc, ça a été un deuil, ça a été difficile. Mais j'ai aucun regret. La deuxième boîte, elle est intéressante parce que en fait, tu sais, tu vas plus vite parce que tu connais, tu sais comment créer un compte, tu sais bancaire, tu sais quel avocat il te faut, la propriété intellectuelle, le cabis, le machin, toutes les démarches elles sont faites. Donc tu vas plus vite sur ton cœur de métier et ta promesse business. Et donc en fait, j'ai un peu la nostalgie. J'aurais adoré que Elan dure plus longtemps, finalement. Je suis très admirative des entrepreneurs qui ont créé des boîtes et qui sont à la tête de leur boîte, par exemple, depuis 20 ans. Parce qu'ils ont su se renouveler pendant les 20 ans. Peut-être que c'est ce que j'ai pas réussi à faire. Et c'est pas grave, parce que la deuxième boîte, elle est différente, elle est plus mature, y a du risque et de la maturité, du paradoxe. En fait, mais c'est ça qui est intéressant.
Finalement, toute l'expérience acquise durant ces années, ouais, dans cette deuxième société, finalement.
Et avec l'envie de transmettre. C'est-à-dire, comme tu sais, comme tu connais, tu peux expliquer, tu peux vivre les choses et en même temps les expliquer à ton équipe. Et ça, alors que la première Elan, je vivais en même temps, j'apprenais en même temps que j'expérimentais. La deuxième, elle est intéressante parce que tu sais les cycles que tu vas avoir. Du coup, tu le décryptes à tes équipes en
tu
disant.
Tu peux les anticiper.
Voilà, tu les anticipes en disant là, on va vivre ça. Là, par exemple, on a eu une étape dans Arcane où on était une start-up et on est devenu une scale-up. On est confronté à la croissance. Scale-up, ça veut dire qu'on grandit, qu'on rentre dans l'adolescence. Et donc, une chambre d'ado, c'est pas une chambre d'enfant. Et il faut refaire la déco. Et en fait, c'est ça. Et donc, leur dire, on va changer d'étape, on va devenir ado. C'est pas grave. Il y a un petit deuil à faire de la start-up où on a kiffé et il y avait un peu un côté new kids on the block très, très agile. Et là, on va rentrer dans autre chose. Ça sera différent, mais ça sera tout aussi bien.
Ouais. Il y a un sujet dont tu m'as pas encore parlé. Mm-hmm. C'est ton voyage en Inde. Qui va être particulièrement marquant dans ton parcours. Est-ce que tu peux me parler de ce voyage en Inde ?
Oui, l'Inde. L'Inde, c'est une renaissance. Puisque quand je fusionne Elan et Edelman, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que moi, j'étais hyper contente, j'avais un projet industriel et tout. Et j'avais du coup un projet de fusion humaine et métier à proposer à une équipe avec des gens... Elan, qui n'avait pas forcément envie de cette vente, parce qu'on était bien entre nous, et les gens d'Edelman, qui n'avaient certainement pas envie de voir Dario Thor arriver avec sa réputation d'hyperactive. Et donc, finalement, personne n'avait envie de ce projet, sauf moi. Donc, ça a été une grosse remise en cause, et du coup, je suis allée, au début, pour faire cette fusion, j'y suis allée un peu au forceps. En disant c'est super les gars, c'est génial, on va y arriver, et puis ça sonnait faux en fait et j'arrivais pas à les engager. Donc en fait j'allais sur échec, ouais, j'avais que des échecs, je tâtonnais, et puis on y reviendra mais sans doute, mais j'avais des codes de leadership qui n'étaient pas moi, c'est-à-dire que comme j'avais vendu, tu vois, je me mettais dans un statut social de l'entrepreneur qui avait vendu, qui avait réalisé. Voilà, bon. Et du coup, j'étais dans une forme de puissance, voire de toute puissance, dans des codes de leadership très masculins, en disant « on va y aller, les gars, on va y aller, on va y aller ». Mais en fait, eux, ils n'en avaient pas envie de ce projet. Donc, ça passait pas, ça prenait pas. Et donc, je décide un jour, au début, je m'étais dit « bon, c'est eux qui ont tort ». Puis un jour, je me dis « non, Marion, quand même ». Ils sont plus de 100. Globalement, ça peut pas être 100 personnes qui ont tort dans la vie. Donc, c'est forcément, ça vient de toi. Et je savais pas comment faire. Et je sais pas pourquoi. J'ai été attirée par l'Inde et je me suis dit, je vais partir. J'avais besoin d'un dépaysement.
Changer de cadre.
J'avais besoin de, dans ma tête, l'Inde, c'était le dépouillement matériel, le dépouillement spirituel, le réalignement. Donc, je me suis dit, je vais aller là-bas. Voilà. Et puis, j'ai pris un billet d'avion. J'ai regardé Ashram. Bon, parce que j'avais vu un film avec Julia Roberts qui était Eat, Pray, Love, quelque chose comme ça, où elle arrivait dans un ashram, je me suis dit, bah, je vais faire comme elle, voilà. Bon, on est loin d'Hollywood, Le ashram en Inde, quand t'arrives, c'est pas pareil. Moi, je suis arrivée dans un truc où il y a le silence. Je vais pas rentrer dans les détails, mais tu parles pas pendant 10 jours. Et puis, tu nettoies les chiottes, tu fais la bouffe, parce qu'il y a des humanités dans un ashram. Sauf que c'est en Inde. Et donc, les toilettes, ils sont très, très sales. La nourriture, c'est compliqué. Il y a des virus. Le silence, c'est pas simple. Et c'est une perte de repères sans nom. Donc, j'ai vécu ça comme une chute libre, comme si j'avais sauté en parachute, avec des moments difficiles, face à la pauvreté, face à la misère, face à la saleté. Et du coup, je me suis retrouvée là-dedans. Et puis, j'ai fait une rencontre avec le monsieur du ashram, un guide spirituel, comme souvent il y a, sur les bords du Gange. Et je me suis dit, tiens, j'ai regardé cet homme diriger son ashram. Il ne dirigeait pas, il l'animait. Et moi, je venais d'un monde où je passais en force, comme je te l'ai dit. Et lui, rien de fort, tout en harmonie. Et il y avait 400 personnes dans ce ashram qui s'affairaient et tout tournait. Mais c'était d'une fluidité et jamais il ne donnait un seul ordre. Jamais il ne haussait la voix. Jamais il était en position de surplomb ou d'autorité. Et ça fonctionnait avec une efficacité incroyable et tout le monde était heureux. Donc j'ai regardé pendant mes semaines là-bas ce qui se passait. Et j'ai compris, enfin j'ai pas compris tout de suite, mais je me suis dit, je ne veux pas diriger, je veux animer, je veux guider, et il faut que je me réinvente comme leader, parce que globalement ça marche pas, voilà, mon truc il marche pas. Et donc quand je suis revenue, je pense que je suis revenue assez transformée par cette aventure, et puis peu à peu j'ai tâtonné pour essayer de me réinventer comme une nouvelle Marion. Ça s'est pas fait tout de suite, c'est un chemin. Je suis encore en chemin, je pense qu'on est toute sa vie en chemin. Mais en tout cas, je me suis trouvée moi. Je me suis réalignée. Voilà.
Sans t'en rendre compte, en fait, tu t'étais mis dans une case à un moment donné. C'est ce voyage qui t'a permis en fait de prendre du recul et de sortir de toutes tes croyances et
c'est très juste ce que tu dis, parce que finalement moi qui je suis revenue à ce que j'ai voulu fuir de la petite Marion qu'on voulait mettre dans des cases, ben en fait toute seule j'y suis, c'est très juste ce que tu dis, j'y suis retournée en fait. Comme quoi c'est difficile d'échapper aux cases, au système, à la norme. Ben j'y suis retournée et en fait, il a fallu que je refuie en Inde, c'est la symbolique pour me refaire ma propre case.
Alors, on en a parlé au tout début de l'épisode. En janvier 2023, tu as sorti un livre, Le temps des leaders pop, aux éditions de l'Aube, pour aborder la question du leadership. C'est un livre hyper, hyper intéressant, que j'ai parcouru avec grand intérêt. Je me suis noté évidemment quelques sujets sur ce livre, parce qu'on pourra difficilement le résumer sur le peu de temps qui nous reste. Mais il y a plusieurs choses qui m'intéressent. C'est comment le leadership a évolué au fil des années. Et notamment, je pense que la pandémie du Covid a transformé encore plus ce leadership. Comment est-ce que tu as vu justement ce leadership évoluer au fil des années, notamment ces dernières années?
Effectivement, ce livre, c'est un plaidoyer pour un nouveau leadership plus adapté à notre société et aux générations futures. Ce que j'ai vu et la façon dont j'ai été éduquée comme leader, c'est un leadership traditionnel qui est plutôt masculin, plutôt dans l'autorité, plutôt dans la position de surplomb, dans le contrôle, dans la puissance. Ça, c'est ce que j'ai vu, moi, des codes du leadership, soit dans ce que je voyais autour de moi, soit dans ce que je pouvais lire dans les manuels du bon leader. Et puis, j'ai vu, par mon métier, parce que comme j'accompagne des dirigeants, parce que je dirige un think tank aussi, où il y a des dirigeants incroyables, je voyais beaucoup de dirigeants. Et j'avais des petits carnets où j'écrivais des anecdotes. Et puis, peu à peu, je me suis rendu compte d'une tension, de paradoxe, de gens écartelés, où en fait je me disais mais c'est pas si noir ou blanc le leadership. Et ces gens-là qui sont hyper puissants parce qu'ils sont patrons du CAC 40, eux-mêmes n'ont pas l'air très heureux dans ces codes traditionnels. Et puis donc je voyais ces leaders vivre en essayant de dompter une époque. Et puis je voyais l'époque avec une génération plus jeune qui a pas envie d'un leader comme avant, il a plus envie d'un meneur de jeu, un rapport au travail différent, un rapport à l'autorité différent, une envie de contribuer au monde, une recherche de sens. Et donc, je me suis dit, pourquoi il faut pas que l'offre rencontre la demande? Et peu à peu, je me suis dit, ça serait quoi un leadership adapté à l'époque dans laquelle on vit et on va de plus en plus vivre? Et le pop leadership est né avec ça, cette idée que de la même façon que le pop art ou la pop culture est allée puiser dans la société, alors la société de consommation à l'époque, puisque c'est la soupe Campbell, le pop art est allé puiser dans la société une inspiration, je me suis dit on va aller puiser dans la société une inspiration pour les leaders. Et le pop leadership, c'est cette idée d'un leader qui se met au centre du game, au centre de l'arène, qui prend le pouls, qui écoute, qui puise, qui respire, qui a cette empathie avec la société avec un grand S et qui permet, ça lui permet de gouverner avec la société et d'être en altérité avec les gens, les citoyens, les collaborateurs et ne pas être dans une, justement dans l'altérité et pas dans le surplomb en fait.
Bien sûr.
C'est un peu ça l'idée de cette évolution que je vois du leadership.
Et donc justement, dans ce livre, tu détailles effectivement cette évolution. Tu parles de ta vision de ce leader pop, qui du coup, pour moi, le leader pop, c'est justement un leader moderne et qui va s'adapter justement à son environnement et qui va aussi être lui-même et pas se être dans le fait de vouloir ressembler à quelqu'un en termes de style de management, de recrutement, etc. Donc, tu parles de tous ces sujets. C'est hyper intéressant. Il y a évidemment un sujet que j'ai envie d'aborder, c'est la culture de la singularité, la culture de l'atypisme. Est-ce que tu peux me parler de cette culture?
En fait, pour être un bon leader... donc ce livre, il c'est pas du tout un mode d'emploi, c'est pas un manuel, loin de moi, parce que d'ailleurs c'est pas écrit comme ça. J'ai juste essayé de modéliser le pop populaire, ouvert et politique pour en faire un quelque chose de mémotechnique et partager ma vision. Cette culture de la singularité, c'est de dire en fait, souvent on me dit comment je peux être un bon leader et comment je trouve mon style de leadership. Il y a cette question qui revient toujours, avec une question aussi qui est de dire comment je peux être moi. Peut-on être soi-même tout en étant leader? Au contraire, sois toi-même pour être un bon leader. Mais c'est incroyable comme on a besoin de casser cette idée reçue et ce préjugé de pour être un leader, il faut que je joue un rôle. Et donc l'idée de la culture de la singularité, c'est de dire pour être un bon leader, il faut être authentique et sincère. Sinon, ça sonne faux, en fait. Tu le vois, on voit bien à la télé, les hommes politiques ou certains dirigeants, quand ils jouent un rôle, ça sonne faux. Maintenant, on est capable de le décrypter. Et donc, l'idée, c'est de dire, pour développer ton style de leadership, il faut que tu te connectes à ta singularité. Et ta singularité, c'est un peu ton enfant intérieur. C'est qui tu es vraiment, c'est quoi ton moi. Et je dis souvent, essayez de repenser à qui vous étiez enfant, parce que l'enfant... il est vierge de tout et il est authentique. Et ça peut être intéressant pour trouver son style de leadership d'aller rechercher ça. Et la singularité, ça peut être plein de choses. La singularité, ça peut être un trait de personnalité. L'intuition, par exemple. Il y a des leaders intuitifs. Ça fait leur singularité. Ça peut être un trait physique aussi. Je dis dans le bouquin que moi, j'ai les cheveux frisés. Et pendant longtemps, on m'a dit, tu sais, les cheveux frisés, c'est sale, ça fait sale. Donc, je me faisais des brushings parce que on m'avait dit que c'était pas un code, les cheveux frisés. Ça faisait trop plage du Brésil. Et du coup, je me suis lissé les cheveux et j'ai nié ma singularité. Je pense à une femme que je connais qui a un petit handicap à l'œil. Pendant longtemps, elle l'a caché et un jour, elle l'a assumé. Et sa façon de l'assumer, c'était de dire « si je ne vois pas bien avec mes deux yeux, en revanche, j'entends bien avec mes deux oreilles ». Et elle a développé une écoute de l'autre absolument fondamentale. Et donc l'idée de la singularité, c'est de dire « connecte-toi à qui tu es vraiment, à ton atypisme, au truc qui fait que tu ne rentres pas dans la norme, et justement, ça fait ta puissance, ça fait ta force ». Et moi, j'en ai marre des gens qui me disent « je me sens jamais à la bonne place ». Alors c'est aussi peut-être parce que je l'ai vécu. Je me sens jamais dans la norme. J'ai toujours l'impression d'être à côté. Je me sens pas dans le groupe. J'ai pas envie d'être dans le groupe, d'ailleurs. J'ai envie de prendre un peu du groupe. Mais voilà. Et du coup, j'ai envie que les atypiques puissent libérer leur énergie, leurs ailes, leur force, leur puissance. Parce que souvent, je me suis rendu compte que c'était à force d'essayer de rentrer dans une case, ils enlevaient leur puissance, ils enlevaient leur force. Et du coup, le message, c'est sois toi-même, sois toi-même. Mais c'est un travail difficile parce que l'éducation familiale, l'éducation scolaire, puis la vie en entreprise fait en sorte qu'on a tendance à nier ta singularité. Et donc, l'idée, c'est de le revisiter pour faire en sorte que ça devienne ta force.
Voilà. Ouais. Je suis assez aligné et je pense qu'effectivement, c'est un chemin de vie au fil des expériences. Il faut effectivement se rendre compte que la norme, c'est pas forcément ta norme et qu'il faut, s'assumer, il faut s'affirmer pour pouvoir justement révéler cette singularité. Parce que finalement, notre singularité, on la dévoile que au fil de notre vie, au fil des actions qu'on va pouvoir réaliser, au fil de toutes ces concrétisations qui vont faire qu'on va se révéler au monde, entre guillemets. Et c'est pour ça que c'est hyper, hyper important.
Mais c'est difficile parce que tu vois, avec le bouquin, j'ai écrit ce bouquin pour les jeunes, notamment. Et du coup, je vais beaucoup dans les écoles parler de ce bouquin qui est un prétexte pour moi pour aller leur dire « soyez vous-même ». Mais tu te rends compte à quel point dès l'école, on les met dans une norme. On te met dans une norme. Et donc, c'est hyper difficile de dire à des enfants, bah, tu vois, là, la prof, elle dit que tu sautes dans tous les coins, que tu tiens pas en place, que t'es créatif. Bah, tu sais quoi? C'est peut-être quelque chose qui est une force. Peut-être que là, à l'école, c'est pas idéal, mais à un moment donné, ça sera quelque chose d'important. Voilà. Donc, c'est pas facile quand même voilà. Et donc, c'est au plus jeune âge qu'il faut dire aux enfants, faut aller chercher leur petite différence qui en fait fait leur grande force.
Ok, très clair. Il y a aussi une chose qui m'a intéressé, c'est le fait que en France on dise prendre un risque et que aux États-Unis c'est plutôt take a chance, qui du coup la vision du risque et de la chance et des opportunités, et en termes de culture on n'est pas du tout similaire, on va dire.
Non, c'est oui, parce que le risque, c'est aussi des opportunités, et je suis bien placée pour le savoir, et c'est ça que j'ai aussi envie de transmettre comme message, parce qu'en fait, c'est difficile d'être entrepreneur sans risque. Souvent, on me dit comment je deviens entrepreneur, et je pense que c'est important de revisiter ton propre rapport au risque. C'est difficile d'être mais pour autant. Il y a plein de formes d'entrepreneuriat. Moi, je crois beaucoup à l'intrapreneuriat aussi, parce qu'on a tous un rapport au risque différent. Je veux dire, c'est pas toujours facile de se dire, je suis caution personnelle, j'hypothèque mon appart, je vais aller réclamer de l'argent à la banque, un peu la queue entre les jambes et tout. Donc, en fait, c'est très important, je dis souvent, de s'interroger à son rapport au risque. Et du coup, il y a plein de formes d'entrepreneuriat. Donc il y a l'intrapreneuriat, il y a le majoritaire, le minoritaire, donc en fait le risque, comment moi j'en fais une opportunité pour moi, et c'est ça que les Anglo-Saxons font remarquablement bien, parce que ils ont cette culture de l'opportunité avec l'absence de peur de l'échec. Je pense que nous aussi on est dans il faut avoir des bonnes notes. Notre culture scolaire, elle est aussi comme ça. Faut avoir des bonnes notes, puis après quand tu es en entreprise, faut avoir un bon 360, tout ça. Et donc on n'est pas élevé dans la culture de l'échec. Et donc c'est difficile d'être entrepreneur quand on a peur de l'échec, parce que l'échec, c'est aussi l'expérience. Voilà, donc oui, si on pouvait un peu plus développer cette culture du risque, mais pas le gros risque, mais ça peut être des petits risques. Exactement. À sa propre échelle.
Étape par étape.
Voilà.
il nous reste une petite vingtaine de minutes pour notre échange.
Passe vite.
Avant de passer à la dernière partie du podcast, il me reste une petite question pour The Arcane. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres en termes d'effectifs? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et évidemment, les objectifs futurs dans les prochains mois, les prochaines années qui arrivent?
Arcane, c'est une aventure incroyable. Je suis tellement fière de cette équipe. Arcane, aujourd'hui, c'est 26 consultants. Donc, on est 26 personnes que j'ai tous choisis pour leur talent, leurs engagements aussi, parce que les Arcaniens, ce sont des consultants engagés. Ils ont des engagements politiques, associatifs, caritatifs. Donc, je suis très fière de leur talent, mais je suis très fière des personnes qu'ils sont. Également. Arcane, c'est des clients pour certains que j'ai depuis 15 ans, donc je les remercie. Des clients qui nous ont fait confiance alors que on était tout petits encore, et là je voudrais encore citer L'Oréal qui nous a fait confiance alors qu'on était tout nouveau, et puis plein d'autres. Parce qu'il n'y a pas d'Arcane sans confiance. Arcane, c'est une boîte qui s'est mise dans le top 10 des cabinets de conseil selon l'étude V comme V en même pas 3 ans, avec des gens qui ont été des mentors, des role models pour moi, pour certains qui ont 40 ans d'existence. Donc nous, on est un peu les nouveaux. C'est une agence, un cabinet qui est vu comme moderne, et donc ça, je suis fière de ça. On est vu comme le cabinet le plus moderne. Ça tient à cet ADN sociétal dont je te parlais, ça tient à ces nouvelles arcanes aussi, donc je suis très fière qu'il y ait cette reconnaissance. Et Arcane, c'est un modèle de cabinet que je souhaite différent, puisque aujourd'hui les cabinets, c'est souvent très pyramidal, ça repose sur un homme ou une femme qui recrute des gens et des salariés. C'est pas ce que je veux pour Arcane. Le modèle que je veux créer, c'est un modèle de senior partnership, comme il y a dans les cabinets de conseil et les cabinets d'avocats, mais ça n'existe pas vraiment dans la communication. Et donc mon idée, c'est que j'ai créé seul Arcane sans associé, parce que j'avais décidé dès le début que j'ouvrirais le capital à ceux qui créent de la valeur et qui représentent la relève, puisqu'on veut représenter la relève sur ce marché. Et donc, c'est une équipe de senior partners qui va se constituer, un collectif. Ça démarre tout juste, puisque j'ai ouvert le capital à Camille Chaffanjon et Antoine Lévesque, qui ont 30 et 33 ans, 34 ans. Donc, tu vois, ils sont jeunes. Et donc, l'idée, c'est d'ouvrir... de créer un collectif de senior partners. Alors là, c'est Camille et Antoine. Demain, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres qui viendront d'Arcane et puis il y en aura d'autres qui viendront de l'extérieur, puisque cette équipe de senior partners, c'est un peu l'équipe du PSG. Pour gagner, il me faut des Mbappé et des Messi. Bon, alors eux, ils sont partis ou sur le départ, donc il faut que je trouve autre chose. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir les meilleurs joueurs pour jouer dans la meilleure des catégories. Parce que c'est un marché qui s'est beaucoup atomisé. Et qui, à mon avis, va se reconsolider. Et donc, l'idée, c'est d'avoir les meilleurs pour jouer dans la cour des grands. Arcane, c'est du coup une innovation métier par rapport à tout ce que je viens de dire. Et puis, c'est aussi des coups de folie, des coups de créativité et du kiff. Aussi. J'assume de dire que nos deux premiers séminaires, on les a fait à Ibiza pour voir David Guetta et à Saint-Tropez pour les voiles, parce que c'est aussi ça une aventure. On a envie de s'amuser. Un coup un peu de folie, c'est ces locaux, au 104 avenue Raymond Poincaré. On cherchait à déménager, on avait 150 mètres carrés, j'ai visité les locaux, il y en avait 650 ou 700 et j'ai dit on prend. Comment ça on prend? En fait, on a juste besoin de 200 mètres carrés. Et en fait, j'ai fait une rencontre décisive avec le propriétaire du 104 qui m'a dit « Je te fais confiance, t'es une femme entrepreneur, je vais te soutenir. » Donc c'est ça l'entrepreneuriat, c'est des rencontres qui m'a suivie dans cette folie de dire « On va créer Arcane Palace ». Ces locaux, ça s'appelle Arcane Palace, c'est la maison de nos clients. Il y a un bar, là on est dans la cuisine où on a un chef, il y a une salle à manger. Et il y a même une boîte de nuit parce que je me suis dit mes clients ils ont besoin de recevoir et donc il faut qu'ils aient une maison et donc ce projet Arcane Palace est né comme ça. Voilà.
Ouais. Et les locaux sont incroyables.
Ouais.
Pour les avoir découverts lors de l'inauguration il y a quelques mois, ouais. Je pense que tout le monde était bluffé.
Ouais. Il y a des belles fêtes.
Effectivement, la boîte de nuit est assez intéressante. On va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange. Il nous reste une petite quinzaine de minutes, avec quelques petites questions rapides. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ?
Je prends soin de moi. J'ai vraiment du temps pour moi dans mes semaines et je suis hyper fière de réussir à caser 4 heures de sport, 1 heure de massage tous les 15 jours et un voyage seul au bout du monde une fois par an. Voilà, j'ai besoin de partir, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de pas parler, j'ai besoin de me recentrer sur moi. Mais franchement, l'entrepreneuriat, c'est un sport de haut niveau. J'en parle souvent avec l'équipe de Veuve Clicquot qui a créé le prix Bold, qui soutient des femmes entrepreneurs et on est tombé d'accord pour dire que le sport c'est vraiment l'entrepreneuriat c'est un sport de haut niveau qui te demande de la vitesse comme un sprinter mais qui te demande de l'endurance aussi et il faut qu'on prenne soin de nous parce que comme c'est comme ça qu'on peut prendre soin des autres aussi
et c'est un jeu long terme.
Donc tellement long terme, tellement
faut être
long
endurant.
Et sincèrement, en plus, je trouve que la façon dont on est entrepreneur aujourd'hui est beaucoup plus difficile qu'avant.
Bien sûr.
On va pas mentir à tes auditeurs. Je trouve ça plus difficile parce que ça va plus vite, parce que il y a plus de conflits géopolitiques, parce que il y a plus de tensions, parce que les cycles de, tu vois, avant, moi, je faisais des plans à 2 ans, j'arrivais à tenir. Maintenant, je fais des plans à 6 mois, et donc ça demande une agilité intellectuelle et une vitesse qui est totalement différente. C'est beaucoup plus difficile, mais plus stimulant.
C'est clair que l'entrepreneuriat s'est beaucoup démocratisé en France ces dernières années, mais il ne faut pas oublier que c'est extrêmement difficile et que, évidemment, le contexte n'aide pas. Mmh. Et que, du coup, le challenge est d'autant plus relevé que, potentiellement, il y a 10-15 ans. Quoi,
Et ça, il faut être conscient de ça.
Bien sûr.
Enfin, à ceux qui veulent être entrepreneurs, il faut être prêt à ça. Ça demande un jeu de jambes un peu rapide.
Exactement. C'est quoi ton plus grand rêve ?
Mon plus grand rêve, j'ai tellement l'impression d'avoir d'accomplir plein de rêves, mais mon plus grand rêve, je pense que c'est un truc un peu spirituel qui est ce chemin de vie, cette quête de soi-même et de finir ma vie en étant 100% moi-même et de tu vois bon voilà c'est un peu spirituel pardon
non mais c'est
voilà moi je me rêve finir ma vie en Inde à m'occuper de ceux qui en ont besoin des enfants et des plus vieux et mon rêve c'est de changer de vie en ayant réussi celle-ci voilà
ouais.
Donc de préparer la prochaine voilà bon c'est un peu
non c'est un très beau
c'est très bouddhiste
très beau rêve.
Tu vois tout
j'aime
ça
beaucoup.
Mais voilà.
Très bien. C'est quoi ta plus grande peur ?
L'ennui. Je suis une catastrophe pour ça. mais je me soigne, mais j'ai besoin d'une adrénaline, j'ai besoin de nouveautés, je déteste la routine,
C'est ton moteur.
Ouais, je déteste la norme. Enfin bon, ça, je crois qu'au bout d'une heure d'entretien, tu l'auras compris, mais ouais, ma peur, c'est l'enfermement, c'est l'absence de la privation de liberté, d'être coincé. Voilà.
Est-ce que tu as un livre à me conseiller ? Alors même si évidemment on mettra ton livre en description et ce sera déjà une très bonne recommandation, mais est-ce que tu en as un autre potentiellement ?
Je vais rester sur un truc un peu spirituel pour ceux que ça intéresse. C'est le livre de Joe Dispenza. C'est un monsieur qui a travaillé sur les énergies et la physique quantique et qui du coup est un conseil par la méditation pour faire en sorte de franchir des épreuves de vie grâce à l'énergie quantique. Alors, c'est un peu spirituel aussi, mais ça part de quelque chose d'ultra rationnel qui est la physique quantique pour arriver vers quelque chose qui est spirituel. Et c'est un homme qui a modélisé une méthode pour aussi soigner des gens qui ont eu des accidents de vie. Donc, voilà. Donc, ce livre est une vraie découverte pour moi.
Trop cool.
Ça existe en podcast et en sur YouTube, c'est parfois plus accessible.
Trop cool. Bon, on mettra les liens en description. Ouais. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ?
C'est les coups de cœur. C'est le coup de cœur qui monte là. Et c'est un, je sais pas si c'est avouable, mais moi j'assume, c'est la série sur les Beckham. En fait, j'ai adoré parce que il y a tout ce que j'aime là-dedans. Il y a Victoria qui est entrepreneur. Et cette fille, elle était prisonnière de son image de Spice Girl et tout. Et puis tout d'un coup, la meuf, elle se revit, elle entrepreneur. Tu vois, elle se réinvente. Moi, j'adore les gens qui ont plusieurs vies et qui se réinventent. Donc voilà. Et elle est mariée à David Beckham, que je pensais avant de voir le film comme un joli blondinet footballeur. Et le mec a une profondeur beaucoup plus intéressante que ce qu'on le croit. Il a vécu des trucs de shame, de name and shame très fort. Il a été résilient. Il a un goût de l'effort incroyable et du dépassement de soi. Et je trouve que ce couple qui a réussi, parce que c'est quand même un défi, ça fait plus de 25 ans qu'ils sont ensemble, d'avancer en même temps et de grandir en même temps, franchement, je dis chapeau. Et que du coup, ça m'a fait changer beaucoup de regard sur eux, sur tous les deux.
Ouais, je suis assez d'accord. Le côté authentique du docu est hyper, hyper cool.
Très bien fait.
Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée sur cet échange ?
Peut-être, non, je sais pas, j'allais dire un message à transmettre, mais en fait, en même temps, vu la conversation, je crois que j'en ai transmis pas mal.
On va faire à la fin. Moi, le supprimer, si tu veux.
Non, t'aurais pu me dire, est-ce que toi, François, t'es pop? Parce que souvent, quand je rencontre des gens avec le bouquin, ils me disent, et moi, Marion, est-ce que tu me trouves pop? En tout cas, ça ouvre une conversation. Et du coup, peut-être tu m'aurais pas posé la question, mais.
Alors, c'est peut-être très connecté avec la question d'après.
D'accord.
Qui est la question reverse. Tu prends le rôle de host pendant une seule question. Et donc, y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser ?
Eh ben, est-ce que quand tu as lu ou parcouru mon bouquin, tu t'es trouvé pop ?
Écoute,
ou en quoi t'es pop ?
Je pense, moi, en fait, la particularité, c'est que effectivement, on a toujours dit que j'étais différent. J'ai mis de très nombreuses années à comprendre qui j'étais et comment je fonctionnais. Je pense que je l'ai compris uniquement ces dernières années. Je pense que le Covid a aidé aussi de me dire que j'étais pas forcément au bon endroit. C'est aussi ça qui m'a poussé à entreprendre. Mais je pense que ce côté singulier, c'est sûr que je l'ai. Mais c'est clair que je l'ai révélé alors tardivement, c'est faux parce que.
Est-ce que le podcast a aidé à
Oui, révéler. Très clairement.
Voilà, parce que pour moi.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà, c'est le podcast.
Le podcast a été incroyable pour révéler ça. Et c'est clair que discuter avec plus de 140 personnalités d'horizons complètement différents, de parcours complètement différents, de visions complètement différentes. Évidemment, ça a été quelque chose d'incroyable. Et ça continue d'être quelque chose d'incroyable, d'ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on continue. Mais outre le fait qu'on ait une audience aujourd'hui qui nous suive et qui apprécie ce qu'on fait. Donc, c'est clair que le podcast a été un bon moyen de révéler cette singularité, on va dire.
Bah, bravo, parce que du coup, tu donnes la parole à plein de gens pop. Et du coup, je pense qu'on en a besoin. On en a besoin d'entendre ça.
Et pour ça, j'étais très heureux de découvrir ce livre et aussi ta personnalité, ton parcours. Il me reste deux petites questions. Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode ?
David Layani, le patron de OnePoint. C'est un entrepreneur qui incarne aujourd'hui une forme de capitalisme d'entrepreneur. Et j'ai beaucoup d'admiration pour son parcours. 20 ans, OnePoint a 20 ans. Et c'est un modèle à plein d'égards.
Ouais, je suis très aligné et je lui enverrai un petit message.
Très bien, écrit de ma part.
Avec plaisir. Dernière question que je pose sur vraiment chacun de mes épisodes, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur ? Un entrepreneur pop.
Ouais. Un entrepreneur, c'est celui qui a une espèce d'idée de cause en lui. Et que travailler à cette idée lui permet de se révéler et d'être pleinement lui-même. Voilà. Et c'est ça l'incarnation pour moi de l'entrepreneuriat. Alors ça peut être plein de choses, hein, c'est très différent. Moi, mon moteur, c'est la liberté et mon véhicule, c'est la communication. Mais ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, le point commun à tous les entrepreneurs, c'est quand même que ça part d'une forme d'énergie entrepreneuriale très forte et personnelle qui est mise au service d'une idée, d'une cause, d'une vision et que tout ça fait un tout très harmonieux.
Voilà. Ce sera parfait pour conclure. Puis de toute façon, cette réponse à chaque fois, elle est différente. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est aussi sa propre vision de l'entrepreneuriat.
Ouais.
Merci beaucoup Marion.
Merci François.
Cool. J'espère que ça t'a plu.
J'ai adoré. Merci beaucoup. J'espère qu'ils auront autant de plaisir à écouter.
Exactement. J'espère que toi aussi qui nous a regardé et écouté, ça t'a plu aussi. On mettra tous tes liens en description. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part un maximum de kiff pour la suite?
Du succès, un peu aussi.
Du succès. Du kiff,
parce qu'on
du succès.
On n'a que 3 ans.
Exactement. Merci beaucoup, Marion.
Merci, François.
Salut.